Bien, cinquième édition avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes vendredi le 21 avril et je suis accompagné de Francine Forget. Bonjour Francine.
Bonjour Yvan.
Oh mon Dieu, on est sérieux ce matin. Et de Mathieu Tessier. Bonjour Mathieu.
Bonjour Francine.
Bonjour Mathieu, ça me fait plaisir ce matin.
Moi.
Vous êtes venu comment Mathieu ce matin?
En moteur à deux roues, donc en scooter.
Ça aurait pu être en bixi électrique?
Et tout à fait, tout à fait. Mais non, je suis venu de mon bon vieux scooter.
Bravo, bravo. Oui, le fond de l'air est frais ce matin, j'ai trouvé.
Ah, ben on a un printemps où on a des éclats d'été et des oscillements d'hiver.
Oh là
alors,
là. Quand sortez-vous votre essai poétique?
Recueil?
Le recueil, oh, ça s'en vient.
Oui, je sens ça.
Alors. Vous sentez bien.
Oh, ça a l'air sérieux, vraiment? On a-tu touché
verra,
quelque chose?
On verra.
Alors, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Nous commençons présentement notre deuxième saison.
Wouhou! Oui! Et la semaine dernière, on s'est laissé sur une question.
Oui, une patte d'un
air. Et on ne savait pas, on avait la patte d'un air parce qu'on ne savait pas ce qu'on ferait. Et finalement, nous avons convenu, vous et moi, que ça serait la poursuite de ce qu'on fait parce qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. En tout cas, pour moi, là, je ne vous mettrai pas là-dedans au cas où il y aurait une version différente. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On a beaucoup de plaisir à aller à la rencontre de nos invités à toutes les semaines. Et on pense particulièrement au segment Au-delà des limites.
Oui, en particulier, mais on a fait des très belles rencontres pendant la dernière année et c'est pour ça qu'on veut continuer.
Exactement.
Ça vaut vraiment la peine. Maintenant, avant de s'en aller dans cette direction-là, Francine, qu'est-ce que vous avez retenu de votre dernière semaine?
Dernière semaine, j'ai d'abord retenu le fait que, et là vous allez peut-être sourire, je suis un peu en avance, mais je ne suis pas vraiment en avance, que demain, c'est le jour de la Terre. Donc, mais il y a toujours, dans les jours précédant le jour de la Terre, il y a toujours un certain nombre de manifestations, d'événements qui nous rappellent que ça devrait être le jour de la Terre à tous les jours. Et j'ai
maintenant, en fait.
Oui, j'ai principalement identifié un documentaire qui est passé hier à ICI Télé, qui peut être vu en reprise sur ICI2.tv. sans extra, donc vous n'avez pas à payer. Ça s'appelle « Après la Romaine », Nicolas Boisclair, Alexis de Gelder, et c'est avec Roy Dupuis qui revient sur sa campagne, je vous dirais 15 ans après, pour protéger la rivière Romaine. Et l'échec, finalement, ça a l'air très bien. Je dis ça a l'air parce que je ne l'ai pas écouté, je n'ai vu que les séquences de lancement, mais ça a l'air bien. Et je vais passer à toute autre chose avant de vous laisser la parole. C'est aussi Omar Sy. On a appris cette semaine que Arsène Lupin, mais c'est-à-dire c'est Hassan Diop qu'il joue, mais qui est Arsène Lupin, qui revient le 5 octobre.
Oh, wow.
Et donc, je vais me joindre probablement aux 76 millions de spectateurs.
Oui, dont je suis aussi.
C'est ça, qui ont vu les premiers épisodes.
C'est quand c'est censé sortir?
5 octobre.
5 octobre.
On va s'en reparler.
Mon Dieu, ben oui, on a le temps. De mon côté, je vous avais menacé la semaine dernière d'aller voir La magie des impressionnistes, ce que je fis. Et la partie 3D est vraiment, vraiment fascinante. Ça se termine le 24 avril. Alors, si ça vous tente d'essayer ça, il faut vous dépêcher. On est le 21.
Mais ils n'auront pas le temps parce qu'ils vont tous aller à Plural après que j'en ai parlé.
Ah, on verra ça, oui. Et moi, j'ai fait deux formations cette semaine. J'ai eu une formation parce que je vais être bénévole au défi Altergo. Je vais vous en parler en fin d'émission. Pas du fait que je sois bénévole, mais du défi. Et formation cycliste averti qui va commencer en mai. Auprès des écoles. Ça aussi, j'en ai parlé à l'émission d'hier. Et finalement, ben moi, c'est un temps de l'année qui est vraiment agréable. C'est les éliminatoires du hockey. Alors, avec mon fils, on s'amuse, on a un pool, puis tout ça. Et parlant hockey, ben il y a un an, le vendredi où on commençait, c'était le décès de Guy Lafleur. Mm. Donc, demain, ça va être l'anniversaire. Je ne sais pas comment on souligne le départ, le décès de Guy Lafleur. Mm.
On va toujours se rappeler de cette première émission, je crois.
Oui, ça a vraiment été marquant. On était tout nouveau, pas d'expérience, et on commence avec un gros événement comme ça. Ça a été vraiment spécial. Et pour cette semaine, ça va être moins flamboyant, mais on a des choses pour vous, n'est-ce pas?
C'est encore drôle, moins flamboyant.
Allez-y.
Premièrement, la chronique histoire de de Marcel Dugas, qui va porter sur le docteur Kellogg. Et vous allez être surpris, on ne parlera pas que de céréales. Au contraire, c'était tout un numéro.
Okay.
Chronique techno, des applis pour regarder la télé sans que ça coûte trop cher. Un écran qui peut nous aider peut-être à protéger nos yeux, parce que oui, il est moins agressif que d'autres. Et si on a le temps, on va parler un petit peu de l'intelligence artificielle.
Oh mon Dieu, qu'on s'ennuyait!
Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Tout à fait.
De votre côté, vous allez avoir deux invités.
Oui, je parle avec Vanessa Anne-Paré, qui est une de nos régulières. Et ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Alors, on va parler, entre autres, du salon du véhicule adapté. Pour moi, c'est une nouveauté. Et la semaine dernière, je vous disais que j'étais en formation pour le défi Altergo. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Sarah Limoges et on va la rencontrer ensemble. Vous allez voir, ça va être une entrevue vraiment formidable. Restez avec nous, à 10h, ça va se passer. Et on va lancer ça. Tiens, je lance une boule qui roule. Tiens, vas-y.
J'ai rencontré des yeux dans un bar d'amoureux, des yeux parmi tant d'autres m'ont souri. J'avais besoin d'amour, je leur ai fait la cour et ils se sont fermés dans mon lit. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. J'avais besoin d'amour, je leur ai fait la cour, et ils se sont fermés dans mon lit. Au matin, grands ouverts, il y a un bout d'univers qui se cachait au fond de mon verre. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini.
Boule qui roule, c'était une chanson de Daniel Lavoie, mais on entendait aussi deux autres chanteurs. Sauriez-vous me les nommer? Le dernier est assez facile à retenir.
Oui, mais c'est dans son époque moins flamboyante. Hein? Ça va être mon thème pour la journée. C'est Renaud.
Tout à fait.
Renaud, il a déjà très bien chanté, je trouvais. Mais moins là. Mm. Et Robert Charlebois, lui, c'est toujours...
égal.
Oui, on peut se fier. Oui, il y a des chanteurs, hein, quand, aussitôt qu'ils ouvrent la bouche pour la première note, on peut relaxer. Ils chantent bien, eux autres, ils ne se trompent pas. Je ne nommerai pas ceux que je ne relaxe pas. Francine, on y va.
J'espère que vous allez relaxer un petit peu avec les Unes Montréal National.
Oui, moi, même des fois, je sors du studio parce que vous êtes entre bonnes mains pendant cette période.
OK, vous êtes dans la phase zen au moment où on fait les Unes. Ben, bravo, parce que... chez certains, ça cause de l'anxiété. Alors, tant mieux si ce n'est pas le cas. Je commence par une bonne nouvelle.
Il y a plusieurs ministres hier qui étaient dans l'anxiété.
Oui, je vais vous en parler, mais je ne commencerai pas par ça. Je vais commencer par quelque chose qui est plus... Je dirais que c'est une bonne nouvelle. À la une du Devoir, victoire pour les mères Mohawk. Mohawk.
Comment vous écrivez mère?
Les mères, les mamans.
M-A-I, OK. M-E, accent grave.
C'est ça. OK. Maman comme M-A-I.
Maman comme M-E-R-E-S, oui.
Marco Fortier, qui nous dit qu'il y a une entente qui est intervenue avec l'Université McGill, Ottawa et Québec, qui va permettre des fouilles à l'ancien hôpital Royal Victoria, où des enfants auraient pu être enterrés. C'est une entente sans précédent entre 6 citoyennes Mohawk et 7 autres organismes gouvernementaux et... Comme je l'ai mentionné, ça va ouvrir la voie à des fouilles archéologiques qui vont permettre de déterminer s'il y a des enfants qui ont été enterrés sur le site de l'ancien hôpital Royal Victoria à Montréal. Et c'est un processus juridique qui, faut bien comprendre, tout ça a été homologué par la Cour supérieure hier matin. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mères-là, c'est vraiment des mères au front, là, pour reprendre le nom d'un autre organisme, parce que c'est un groupe de 6 personnes qui ont mené cette bataille à titre personnel, sans mandat de leur conseil de bande. Et pour eux, pour elles, je devrais dire, cette entente, c'est un jalon qui va probablement aider à rétablir la confiance entre les peuples autochtones et les gouvernements qu'ils jugent colonialistes. Je trouvais que c'était quand même une belle nouvelle parce que des fois, on fait des petites avancées de ce côté-là, puis ensuite, on recule.
Il me semble, je cherche très fort présentement, puis je ne trouve pas la réponse. Il y a eu un film québécois qui a été fait, puis il me semble la prémisse, c'est un peu ce que vous racontez.
C'est possible, mais là, j'ai aussi un trou de mémoire en même temps que vous. Alors ça, c'est
pas
très
bon. On fait un appel à tous.
Alors donc, puisque je parlais de recul, j'avais fait un lien, mais là, vous m'avez coupé ça. Mais en tout cas, j'ai parlé de recul. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence ce matin, puisque Le Devoir, Le Journal de Montréal et La Presse Plus en parlent. C'est le fameux troisième lien. Et dans Le Devoir, on titre en disant que Guilbeault, donc on fait référence à la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui est contredite par le ministère des Transports, quand elle affirme que la pandémie a modifié les débits de circulation, puisque une étude nie cette déclaration. C'est hier, lors de sa conférence de presse, nous apprend Isabelle Porter du Devoir, elle a affirmé, notre ministre, qu'un tunnel destiné aussi aux voitures aurait coûté entre 9,5 et 10 milliards de dollars et que la décision d'abandonner la portion autoroutière a été prise que tout récemment. L'une des deux études auxquelles elle se réfère, pour changer de cap, la contredit clairement sur les effets du télétravail, puisqu'elle a évoqué le télétravail qui justifierait cette baisse. Elle a parlé d'une décision très difficile en conférence de presse. Elle dit, sur le plan politique, « C'est difficile pour mes 15 collègues et moi. C'est pour ça qu'il n'y a rien de triomphaliste dans ce que je vous dis là. » Madame Guilbeault, et je pense que c'est important, en tout cas moi je l'ai trouvée très courageuse. Peut-être que certains vont dire que... finalement, elle a représenté un gouvernement qui n'était pas tant que ça courageux parce qu'il n'a pas osé l'affirmer. D'ailleurs, ça a été dit dans certains propos. Il n'a pas osé affirmer que finalement, cette décision de ne pas construire le troisième lien dans la dans le modèle qu'on avait imaginé était prise peut-être depuis un certain temps.
Depuis avant la campagne électorale.
Probablement. Madame Guilbeault a été dépêchée en sol pour défendre la nouvelle mouture du projet et elle était seule. Seule et seule. Alors, je ne peux évidemment que dire que c'est quand même un geste courageux.
Oui, absolument.
Toujours sur le troisième lien, dans le Journal de Montréal, on parle du festival des excuses. Des excuses et presque des larmes. Alors, Nicolas Lachance, dans son papier, nous parle évidemment de Bernard Drainville, qui avait la gorge nouée lorsqu'il s'est adressé aux journalistes hier matin à l'Assemblée nationale. Il a dit que c'était un sujet très émotif. Il a affirmé le député de Lévis, les larmes aux yeux, qui est aussi ministre de l'Éducation, je vous le rappelle. Je veux d'abord présenter mes excuses aux gens de Lévis et aux gens de Chaudière-Appalaches. J'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer, a soufflé M. Drainville. Je comprends leur déception, je comprends leur colère. Du côté de Éric Kerr, député de la Pelletrie, qui avait menacé de démissionner, puisqu'il mettait son siège en jeu, de démissionner si on n'allait pas au bout de ce projet. Mais il a décidé de continuer. Il va soutenir le tunnel qui devrait conduire à un transport collectif entre les deux rives. Nous verrons. Et pour Martine Biron, qui est la députée de Chute de la Chaudière, c'est une journée brutale. Dans le Journal de Montréal, toujours, je reviens sur, je dirais une nouvelle qui a pris racine, c'est le cas de le dire, le 27 septembre 2019, alors que M. Trudeau nous annonçait, notre premier ministre du Canada, qu'il était pour planter des arbres et beaucoup d'arbres.
Beaucoup d'arbres, oui.
Et à la une du Journal de Montréal ce matin, on dit « l'homme qui ne plantait pas, entre parenthèses, vraiment d'arbres ». Alors, ce qu'on apprend, évidemment, c'est que, bon, le chef libéral avait profité de la grande marche pour le climat pour faire son annonce à Montréal. Il avait rencontré Greta Thunberg et il avait annoncé en grande pompe son intention de planter des millions d'arbres dans un temps record. Et ce qu'on apprend, c'est que, bon, on a donné un très bon coup la première année, puis le projet est tombé au neutre. En fait, au moment où on est, le fédéral a planté une fraction des arbres promis, soit 2 %, ce qui fait dire au commissaire qu'il devrait être très étonnant qu'Ottawa remplisse sa promesse. C'est coûteux et en plus, ça a l'air que c'est assez polluant pour notre environnement, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il soit mature, les arbres, en fait,
n'absorbent pas, j'imagine.
Exactement. Comme quoi le mythe de la solution magique lorsqu'il est question de lutte au changement climatique est très tenace.
Moi, j'ai entendu dire que même s'ils réussissaient dans leur promesse, les arbres matures seraient, en guillemets, matures en 2050 seulement. Alors.
Mais on a du temps avant d'arriver là, effectivement. Et enfin, je vais terminer avec ça, c'est que il n'y a pas de réponse au 1-833 dénonce plusieurs personnes. Le 1-833, c'est la ligne qui a été mise en place par le ministre de l'Éducation. Et quand on appelle pour, en fait, dénoncer une violence ou une conduite à caractère sexuel, eh bien, on arrive sur une boîte, une messagerie vocale. Et même en semaine, entre 8h30 et 16h30, nous dit Marie-Ève Moras. Elle a fait l'essai. Elle a appelé une demi-douzaine de fois. En fait, elle dit pendant une semaine. Et ben voilà, c'est ce qui est arrivé. Personne au bout du fil. Et semble-t-il qu'évidemment, ben, on peut s'en douter, hein, c'est pas facile de dénoncer une violence à caractère sexuel.
On l'a vu cette semaine.
Oui, on a vu effectivement avec Mme Fournier, la mairesse de Longueuil, dont on a amplement parlé. Mais en plus, ce qu'on dit, c'est que pour des jeunes femmes qui appelleraient, c'est des jeunes filles, faire un dévoiement, ça prend beaucoup de courage, quel que soit l'âge. Et puis quand on arrive dans une boîte vocale, alors Monique Villeneuve observe un silence et elle pèse ses mots quand elle parle de ça, mais elle dit que ce n'est vraiment pas une intervention sociale à privilégier. C'est la directrice générale du Centre de prévention et d'intervention pour les violences d'agression sexuelle.
Merci.
Et voilà, je m'arrête ici.
Merci, Francine. Avant de me tourner vers Monique Kirouac pour les Cantons de l'Est, je voulais juste amener un petit élément d'information. Le film dont on cherchait le nom, ça s'appelle « Hochelaga ». Et le synopsis, c'est « Pendant que se déroule à Montréal une partie de football sous la pluie, une section du terrain du stade Percival Molson s'effondre. Baptiste Assigny, un étudiant au doctorat d'archéologie d'origine Mohawk, découvre là les traces de ceux qui ont habité l'île de Montréal alors qu'elle était une bourgade nommée Hochelaga. »
Et c'est un film de?
Ah, un film de François Girard.
C'est ça.
Bonjour Monique Kirouac en
bonjour,
Estrie.
Bonjour, bonjour. Et je peux ajouter que c'est Samiane qui jouait le rôle principal.
Ça, je le savais tellement que vous alliez rajouter quelque chose. Vous
oui,
êtes une grande connaisseuse.
Mon petit grain de sel,
oui, oui, c'est
Estrie.
Ça.
Finalement, à quatre, Monique, on va y arriver, hein, Mathieu?
Oui, on est capable, on est capable. Alors aujourd'hui, écoutez, j'ai une ligne directrice, c'est l'environnement.
Allez-y.
Alors, après Sherbrooke et Magog, le nombre de municipalités préoccupées par la présence de moules zébrés à leur prise d'eau potable augmente en Estrie, alors que leurs prises d'eau sont aussi touchées par l'espèce exotique envahissante. Waterville et canton de Atlee sont aux aguets. Atteint par la moule zébrée, le lac Massawippi est un réservoir d'eau potable en Estrie. L'invasion est toujours sous contrôle dans ce lac, contrairement au Manfred Magog. Alors, pour le moment, l'usine de filtration de Waterville ne serait pas encore touchée, mais une inspection permettrait de le confirmer. Maintenant, je vous parle d'environnement sonore. Alors, écoutez bien. Des citoyens de Magog, Sherbrooke et Lac-Mégantic nourrissent de grandes attentes en lien avec la tenue d'un premier forum sur l'impact du bruit des trains en milieu résidentiel annoncé pour le 21 juin à Magog. Alors, il y a des citoyens qui souhaitent faire prendre conscience aux décideurs que le bruit engendré par les activités ferroviaires et en particulier le sifflement des trains la nuit a un impact réel sur la qualité de vie et la santé publique. Alors, ces citoyens, ben, ils ont réuni trois spécialistes. Le docteur Éric Lampron-Goulet, qui est chef du département de santé publique du CIUS de l'Estrie, l'enseignant et chercheur Tony Leroux de l'Université de Montréal, qui est spécialiste en bruit industriel et environnement, et le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard, qui se définit comme un militant pour la sécurité ferroviaire afin d'éliminer les nuisances occasionnées par ce type de transport sur les populations avoisinantes. Alors, aux dernières nouvelles, communiquées par la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, en décembre dernier, Magog avait entre les mains une étude révisée qui évalue à plus de 2 millions les aménagements requis aux 8 passages à niveau de sa zone urbanisée pour permettre que les trains restent muets quand ils passent.
J'espère qu'ils n'oublient pas Mégantic à un moment donné.
Ben oui, ben ils font, je veux dire, quand on parle des cantons de l'Est, hein, ça rejoint le lac Mégantic.
Mm-hmm.
Alors, je vous parle maintenant de forêts. Alors, les gens de la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, ont poussé un soupir de soulagement en voyant la météo changer en ce début de semaine en Estrie parce que les risques d'incendies étaient très élevés, en effet, à cause du temps chaud et sec du week-end dernier. Conjugué aux branches tombées au sol à la suite de la tempête de vent de la semaine précédente, ben tout ça, la région était un véritable baril de poudre. Quand les feuillus n'ont pas encore leurs feuilles, ben le temps chaud et sec demeure un danger pour les feux de forêt. Et la SOPFEU insiste pour demander aux gens de ne pas allumer des feux pour brûler l'herbe ou des rebuts du printemps parce que les risques de propagation sont énormes. Mmh. Alors, respectons les consignes. Et finalement, deux mines abandonnées à l'ouest du lac Montjoie suscitent la préoccupation de la MRC du Val-Saint-François qui demande à Québec d'assurer la responsabilité de ces deux lieux deux sites dans le cadre de l'agrandissement du parc national du Mont Orford. Parce que ces mines n'ont pas été restaurées, elles pourraient présenter un risque pour l'environnement. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques 22 mines abandonnées en Estrie dans la carte des sites miniers abandonnés au Québec selon l'inventaire du 31 mars 2021.
Et quand même, oui.
Alors, encore des choses à surveiller.
Et on compte sur vous pour les surveiller?
Oui, je suis à l'affût.
Alors, merci beaucoup pour ce survol et on se reparle le vendredi prochain. Merci, Monique.
Avec plaisir. Bon week-end.
Merci. Du côté du soleil à Québec, évidemment, on parle du troisième lien, mais...
Oh oui!
C'est surprenant, mais oui.
Oui.
Mais je vous ai trouvé un angle différent. Et évidemment, ça vient de l'ex-maire Labeaume qui dit que le troisième lien, entre guillemets, n'a jamais été sérieux selon l'ancien maire Labeaume. Il nous dit « Un tunnel entre Québec et Lévis dédié au transport collectif ne convainc pas plus l'ex-maire Régis Labeaume que les anciennes versions présentées par la CAQ. Le troisième lien n'a jamais été sérieux, fusille-t-il. Et il nous arrive avec un argument massu qui dit « Pensez-vous qu'un conseil des ministres va approuver un 8,3 km sous le fleuve à 5 milliards de dollars? » Ils vont dire « C'est fourrette cette affaire-là, ça n'arrivera jamais. » Comme s'est vivement prononcé l'ex-maire de Québec en entrevue au journal Le Soleil hier. Mais vous me disiez, Francine, en préparation ce matin, qu'il y avait aussi quelque chose dans La Presse Plus d'hier.
Bien, dans sa chronique, oui, M. Labeaume a parlé de ça. Et il n'était pas le seul, d'ailleurs. Il y en a un certain nombre qui ont dit que c'était comme un abandon progressif du projet.
Ah,
on donne le gros coup aujourd'hui, hier. Puis après ça, bien,
on veut le faire écraser,
on verra la suite,
en douceur.
C'est vrai. En douceur, c'est ça.
Du côté du droit à Ottawa, on apprend qu'il y a un fonds de grève de 43 millions de dollars pour les fonctionnaires fédéraux qui sont en grève. Et j'ai lu dans le Journal de Montréal qu'une journée de grève coûtait 200 000 dollars. Ça m'a paru pas beaucoup. Mais ça veut dire que c'est une possibilité de 200 jours de grève là, en termes d'argent. Moi, je pense que c'est peut-être moins que ça. Les gens, par contre, qui sont en grève, eux autres, ils espèrent que ça ne durera pas très, très longtemps. Alors, on fait une petite pause et au retour, on a une entrevue avec quelqu'un qui grouille beaucoup. C'est Mme Sarah Limoges qui va nous parler de son parcours, entre autres autour du défi Altergo. C'est à écouter dans quelques instants.
Vous pouvez rejoindre
bien 5e édition avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Yeah, yeah. Some people live just to play the game. People think that the physical things define what's within. I've been there before, and that life's a bore so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. People search for a fountain. Promises forever young. Oh, some people need 3 dozen roses. That's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. What good would it be? With no one to share and no one who truly
Et c'était Scary Pocket If I Ain't Got You.
Et là, il y a plein de gens qui se demandent d'où vient cette voix, c'est pas Mathieu. Alors, Jennifer, présente-toi.
Je suis la stagiaire à Canal M. J'étais là pour 5 semaines, puis là, il me reste juste 2 semaines.
Mon Dieu Seigneur!
Oh, il était temps qu'on se rencontre!
Oui, tout à fait, et dans 2 semaines, ça va être spectaculaire, s'il reste juste 2 semaines. Du côté de la chronique « Au-delà des limites », samedi dernier, j'étais en formation dans le cadre du défi Altergo et la personne qui a donné la formation s'appelle Sarah Limoges. Elle nous expliquait comment travailler, comment offrir nos services et notre aide à des gens qui vivent avec certains handicaps. Et moi, j'ai été émerveillé par la présentation qu'elle a faite et je suis allé lui parler. Et je vais vous la faire connaître dans cette prochaine chronique. Sarah Limoges, je vous ai rencontré lors de la formation du prochain défi Altergo. Vous étudiez pour terminer un DESS, je pense que c'est un diplôme d'études spécialisées.
Supérieure spécialisée, oui.
Oui, en santé mentale. Vous travaillez comme technicienne en travail social à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous avez un chum et vous préparez un voyage pour Londres. Alors, ma première question, de quoi a l'air votre agenda pour la semaine prochaine?
Ben, écoutez, j'ai tout un agenda, je dois vous l'avouer.
Oui.
Je suis une personne qui est très active, passionnée par plein de choses diverses. Assurément, mon temps plein, c'est je me lève le matin à 5h30, je me prépare et je travaille. Du lundi au vendredi, là, de 8 à 4, j'ai un très bel emploi.
Oui.
Par la suite, en fait, là, c'est sûr que moi, j'habite avec mon conjoint en appartement. Donc, on a toutes les tâches quotidiennes du train-train, hein, donc l'épicerie de lavage. Ça prend du temps, veux pas.
Oui, je sais.
Et mes fins de semaine sont consacrées beaucoup à mes études à l'université que je fais à temps partiel à la TELUC à distance et à la planification de voyages. Assurément, c'est une grande passion chez moi.
Mm-hmm.
Et quand le temps me permet, je planifie des rendez-vous avec mes amis très d'avance pour un brunch, une soirée, pour prendre du temps pour soi là, puis avec les amis.
Alors, je vous ai présenté rapidement Mme Sarah Limoges. Puis on va continuer notre conversation avec elle tout de suite. Madame Limoges, je vais dire Sarah et vous, OK?
Oui.
On va faire ce compromis-là. Votre chum, je pense qu'il se promène lui aussi en fauteuil roulant, si je ne me trompe pas.
Oui, lui aussi, il est en fauteuil roulant depuis toujours.
Depuis toujours. Non, vous n'avez pas toujours été en fauteuil roulant.
Non, moi, j'ai fait une polyarthrite juvénile rhumatoïde depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Et j'ai commencé à être en fauteuil roulant aux alentours de 12-13 ans.
Oui, oui, oui. Alors, bon, mais avez-vous un souvenir de ce que c'était la vie sans cette maladie-là ou ça a toujours fait partie de votre fonctionnement?
Sans la maladie, ça c'est avant mes 4 ans, c'est un peu jeune pour avoir des souvenirs comme tel. Donc, pour moi, ça fait partie de mon quotidien, de ma normalité, hein, si on peut dire ça comme ça.
Mm-hmm.
Par contre, j'ai des souvenirs quand même assez clairs et frais là, d'avant d'être en fauteuil roulant.
D'accord. Maintenant, donc, c'est 2 fauteuils roulants dans le même appartement. Est-ce que vous avez aménagé votre appartement pour que ça soit facile de circuler puis de fonctionner?
Oui, assurément, quand on a choisi notre appartement, on a choisi un logement qui était accessible, donc dans lequel on pouvait entrer. On est dans un semi-sol, donc on a une rampe. On a pris un logement qui est assez grand également. On est dans un 5,5. On est très, très chanceux. Et par la suite, on l'a fait adapter par le programme PAD, qui est un programme d'adaptation de domicile par la ville de Montréal. Ce sont les villes qui sont détenteurs de ce programme-là. Donc,
oui, oui, oui.
Toute ma cuisine, ma toilette, les comptoirs sont abaissés, les garde-robes, les switches de lumière, tout ça, ça a été adapté à 2 personnes en fauteuil roulant.
D'accord. Et vous avez rencontré votre conjoint en jouant au Power Chair Soccer. Et moi, je suis allé vous voir, je suis allé dans les internets trouver quelque chose à votre propos sur... Vous avez joué au Power Chair Soccer lors du défi Altergo de 2018, quelque chose dans le genre. Et c'est très impressionnant à regarder. Honnêtement, oui. J'ai trouvé ça... Donc, vous avez rencontré votre chum en jouant au soccer.
Oui, Power Chair Soccer que j'ai pratiqué pendant plus de 8 ans, majoritairement au niveau élite, donc de sport de compétition.
Oui, oui.
Et Patrick, mon conjoint, faisait partie de la même équipe que moi à Junisport. Donc, je veux pas, quand on est un athlète élite, même si c'est un sport adapté, ça prend tout notre temps libre. Hein. Les fins de semaine, on est dans des gymnases à s'entraîner. Des fois, on part 3-4 jours à Boston ou Vermont pour des compétitions. Donc, j'étais toujours avec mon équipe. Et ben Patrick et moi, ben, on a développé une chimie au-delà du sport. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Maintenant, ça fait 10 ans qu'on est ensemble.
Ben bravo. Il y a Francine Forget qui veut vous poser une question.
Oui.
Écoutez, excusez mon ignorance, là, mais je comprends dans vos propos que c'est des équipes mixtes.
Oui, le Power Chair Soccer, c'est vraiment un sport très inclusif. Donc, femmes, hommes, dans la même équipe, on peut avoir 17 à 77 ans dans la même équipe également. Là, donc, c'est très, très diversifié.
Mais vous avez décidé à un moment donné que la vie d'athlète de haut niveau n'était pas nécessairement pour vous. Puis vous avez bifurqué vers un travail, vers plus... En fait, vous avez travaillé dans du communautaire, mais maintenant, vous êtes à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Oui, tout à fait. À un moment donné, faute de temps, il faut faire des choix. Et la vie d'athlète professionnelle, en fait, là, élite, ça grugeait beaucoup de mon temps libre et j'avais envie d'explorer d'autres choses, retourner aux études, par exemple, planifier des voyages, etc. Et bien sûr, mon travail temps plein à l'hôpital, c'est quand même exigeant, j'adore ça, mais par la suite, j'avais besoin de prendre du temps pour autre chose, donc j'ai fait le choix d'arrêter le soccer.
Est-ce que Patrick, votre conjoint, a continué, lui?
Oui, il continue toujours. Il se lève tous les samedis pour ses entraînements. Il part d'ailleurs aujourd'hui là, pour un tournoi au Connecticut. Donc, on ne se verra pas de la fin de semaine. Mais lui, voilà, là, c'est son choix de vie. Il adore ça. Puis je vais le voir pour l'encourager quand je peux.
Une des choses que vous aimez faire tous les deux, c'est des voyages. Et vous m'avez écrit cette semaine en me disant qu'une partie des voyages que vous aimez, c'est entre autres dans des parcs d'attractions. Et là, ma curiosité a été allumée. Deux personnes en chaise roulante motorisée, parc d'attractions, pour moi, là, ça prend des explications.
Bien, on a un petit côté très enfantin, mon conjoint. On est passionnés par les parcs d'attractions. Donc, on a, par exemple, lorsqu'on était à Paris, on a été à Disneyland Paris.
Oui. Mm-hmm.
On a également été 2 semaines en Californie. Donc, c'est sûr, il y a un Disneyland, il y a un Warner Bros. Studio, un Paramount, il y a un Universal. On les a toutes faites. Donc, ces parcs-là sont très accessibles généralement. Nous, on a la prétention de vouloir faire tous les Universal et tous les Disney de ce monde. C'est un projet de vie. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas la même expérience qu'une personne qui n'a pas d'handicap, qui va peut-être être basée davantage sur les manèges.
Oui, oui.
C'est sûr que les parcs d'attractions comme ça, c'est très, très gros. Ils ont un petit pourcentage là, de manèges qui sont accessibles, adaptés à une personne en fauteuil roulant qui lui permet de le faire sans transférer. Mais nous, on vit notre expérience d'une autre façon. Là-bas, il y a des couleurs, il y a des saveurs, il y a des restaurants thématiques, il y a des spectacles, il y a des animations, il y a des personnages avec lesquels tu peux aller prendre des photos. Donc, nous, on a transformé cette expérience-là en autre chose que basée sur les manèges proprement dit. Et on a adoré ça.
Fantastique, fantastique. Je ne sais pas c'est quand votre anniversaire, mais si j'avais à vous offrir mes souhaits pour la prochaine année, je vous souhaite quoi?
C'est cliché, je le sais, mais avant tout de la santé.
Ah oui?
Oui, bien sûr, j'ai une condition, moi, qui est dégénérative.
Oh.
On ne sait pas dans combien de temps ça peut régresser. On ne sait pas et c'est très progressif. Mais j'ai un train de vie aujourd'hui avec les voyages, les études, le travail qui me remplit de joie, qui me satisfait beaucoup. Donc, le plus de santé possible pour me permettre de poursuivre, d'avoir ce rythme de vie-là très, très longtemps. Et beaucoup de voyages et de plaisir, rassurément.
Ben, c'est ce que je vous souhaite alors, de la santé pendant cette prochaine année. Madame Sarah Limoges, ça a été un grand plaisir pour moi de passer ces quelques minutes avec vous et vous avez ensoleillé ma journée.
Un grand merci à vous et passez une excellente journée.
Merci beaucoup.
Bonjour Marcel Dugas.
Bonjour.
Ça va bien ce matin?
Très bien, vous-même.
Oui, alors vous nous conviez à un voyage avec le docteur Kellogg.
Ouais, qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner ce matin, monsieur?
Ben, c'est la question que je voulais vous
Monsieur
poser. Je
Dugas?
ne sais pas quelles sont vos habitudes alimentaires au déjeuner, mais si vous aimez commencer votre journée avec un bol de cornflakes de Kellogg, vous dégustez une invention culinaire qu'on doit en partie à un des personnages les plus singuliers de l'histoire récente de la médecine, qui s'appelait John Harvey Kellogg, médecin, chirurgien prolifique, qui a procédé à des dizaines de milliers d'opérations et pratiquait encore alors qu'il avait 88 ans. C'est un apôtre de la santé et de la médecine préventive longtemps avant que ce ne soit à la mode. Mais pour chaque bonne idée qu'il a eue dans la pratique de son métier, il en a eu cinq ou six qui oscillaient entre mal inspirés et franchement répréhensibles.
Oui, c'est ça, j'allais vous parler d'emblée. Moi, je les avale un peu de travers, là, les céréales, depuis que j'ai lu votre résumé hier, Marcel, et quand j'ai vu qu'il était partisan de l'eugénisme.
Il a eu un impact limité. Si vraiment, là, à ce moment-là, vous décidez de... Vous avez pas... Vous faites ce que vous voulez remarquer bien, mais vous n'avez pas nécessairement besoin de boycotter les cornflakes. Son rôle dans leur invention n'a pas été énorme, mais je vais y revenir là-dessus dans quelques instants. Le docteur Kellogg est né dans le Michigan en 1852 dans une famille appartenant à la communauté religieuse des Adventistes du septième jour. Il fréquente brièvement l'école, il va s'instruire lui-même. C'est finalement le patronage d'autres membres de la communauté qui va lui permettre d'étudier la médecine. En 1876, il prend la direction d'un établissement fondé 10 ans plus tôt par les Adventistes du septième jour, nommé la Western Health Reform Institute, que Kellogg renomme le Battle Creek Sanitarium. Battle Creek, c'est le nom de la ville du Michigan où le complexe était situé. Et sanitarium, à ne pas confondre avec sanatorium, terme qu'on a utilisé chez nous pour parler des centres de convalescence où on envoyait les personnes atteintes de tuberculose. Sanitarium, c'est un mot que Kellogg dit avoir inventé, c'est comme dans sanitaire. Et son institut, c'était tout à la fois un hôpital, un institut de recherche, un centre de formation médicale et une retraite pour les riches et les puissants. On allait là pour guérir d'une maladie quelconque ou encore pour retrouver la santé, par exemple dans des cas d'épuisement professionnel, grâce à l'approche du biologic living, vivre une vie biologique du docteur Kellogg. C'est un gourou de la bonne forme physique à une époque où ça ne faisait pas partie du discours ambiant. L'air pur, le soleil, l'exercice, il encourageait la pratique du sport chez ses patients et patientes. La consommation d'alcool et de tabac était strictement interdite au sanitarium. Et à une époque où presque tous les hommes et beaucoup de femmes fumaient, il a lutté énergiquement contre le tabac, disant qu'il n'y avait aucun côté positif à la consommation d'une des plantes les plus meurtrières que l'on connaisse. Il croyait aussi aux bienfaits de la luminothérapie, de l'hydrothérapie, mais son approche scientifique à plusieurs points de vue était teintée par ses convictions religieuses. Il faisait preuve du plus pur puritanisme quand il était question de sexualité. Il considérait ça comme étant excessivement dommageable. Il a écrit un livre intitulé « Plain Facts About Sexual Life », publié tout d'abord en 1877, donc « Des faits simples à propos de la vie sexuelle », où essentiellement, il essaie de décourager les gens de s'y adonner. L'édition originale comptait 356 pages. Il va y ajouter tout au long de sa vie. Au moment de son décès, la dernière édition, on était rendu à 900 pages de faits sur la vie sexuelle. C'est un des nombreux traités qu'il a publiés pendant sa vie. La sexualité, c'était mauvais à un point tel que lui-même a été marié pendant plus de 40 ans et on ne pense pas que le mariage a été consommé. On n'en est pas entièrement certain, mais on sait que sa femme et lui dormaient dans des chambres séparées et qu'ils ont passé une bonne partie de leur voyage de noces à écrire sur les méfaits de la sexualité, donc à ajouter au livre dont je vous parlais il y a un instant.
Je m'excuse, Marcel, est-ce qu'il avait une certaine notoriété, ces propos-là? Est-ce qu'ils étaient repris par d'autres ou c'était assez original, je vous dirais?
Bien, ça dépend à propos de quoi. Il y a certaines de ces théories qui ont eu une grande circulation. Bon, ses livres, en général, je pense qu'il en a écrit quelque chose comme 50. Plusieurs d'entre eux se sont très bien vendus. Et son institut, son sanitarium, est devenu excessivement populaire. À un certain moment donné, il pouvait soigner jusqu'à 1300 patients en même temps. Et c'était vraiment... Les gens riches et célèbres des États-Unis allaient là pour suivre ses conseils, pour se fier sur sa vie biologique. Donc, certaines de ses idées ont beaucoup circulé. Il a connu une grande popularité personnelle. Il a fait de très bonnes affaires avec son sanitarium. Mais, bon, c'est comme n'importe quoi. Il y a des choses qui étaient, qui avaient plus de circulation que d'autres, si vous voulez. Notamment, son idée à propos, parce que pour lui, la masturbation, c'était à peu près la pire chose qui soit, il disait qu'il allait jusqu'à recommander, en fait, la circoncision à froid pour les garçons et l'application d'acide ou l'excision du clitoris chez les filles qui s'adonnaient à ce vice-là. C'est pas une idée, celle-là, qui a eu beaucoup de résonance dans la société, fort heureusement. Mais le nerf de la guerre de la santé, selon la vie biologique de John Harvey Kellogg, c'est l'alimentation. Il trouvait que les Américains mangeaient mal, mangeaient trop et avaient une diète trop stimulante. On va prendre ça une chose à la fois. Il n'y avait aucune viande servie au sanitarium. Il était végétarien depuis l'adolescence et il prônait une alimentation saine à base de fruits, de légumes, de céréales et de noix. Il y avait un laboratoire alimentaire à son établissement où il développait des recettes, parfois avec son épouse Ella, parfois avec Will, un de ses frères. Les Kellogg ont créé des substituts de viande faits de noix, des beurres de noix qui venaient remplacer le vrai beurre. Et bien sûr, ils ont inventé les céréales en flocons. L'origine exacte de la recette des flocons de maïs de la compagnie Kellogg est incertaine. C'est difficile de savoir qui de John, Will et Ella Kellogg a fait quoi. Mais John Kellogg obtient un brevet pour ses céréales en 1896. Et dès le départ, le produit qu'on appelait granose se vendait plus vite qu'on réussissait à le produire. Il y avait véritablement, et là je m'excuse du jeu de mots, un appétit dans la population pour des options faciles, rapides et nourrissantes au déjeuner. Mais Will Kellogg, donc le frère du premier, qui est un peu le laquais du docteur dans son sanitarium, avait la fibre entrepreneuriale plus que son frère, qui se voyait vraiment comme un scientifique. Il se disait que si on améliorait le goût du granose, ça pourrait se vendre encore mieux. Sa suggestion d'ajouter du sucre à la recette a été rejetée du revers de la main par John Kellogg parce que la nourriture qu'il servait et qu'il recommandait à ses patients, patientes de continuer à prendre après leur départ de l'institution, ça devait être plate. Les aliments ne devaient pas vous stimuler, vous ne deviez pas avoir de plaisir à manger. C'est une des raisons pour lesquelles il avait l'alcool et la caféine en horreur. N'importe quel aliment stimulant ça pouvait vous mener sur la voie du sexe, et ça, c'était très mal. Donc, Will Kellogg, en 1906, lance, contre l'avis de son frère, la Battle Creek Toasted Corn Flakes Company, ancêtre de la compagnie Kellogg d'aujourd'hui, pour vendre sa recette modifiée de flocons de maïs qu'il avait co-inventé. Il y a eu une longue bataille légale entre les deux. Les tribunaux ont donné gain de cause à Will et les frères sont demeurés en mauvais termes jusqu'au décès de John. Je reviens au sanitarium. J'en parlais tout à l'heure. Les méthodes du docteur Kellogg fonctionnaient, à tout le moins au niveau commercial, si pas au niveau scientifique, ça c'est un petit peu moins certain. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le docteur Kellogg a beaucoup, beaucoup travaillé. D'ailleurs, ça m'étonne que j'aie pu vous en parler pendant presque 8 minutes à la radio sans vous parler de l'obsession qu'il avait pour les intestins. Selon lui, la flore intestinale, tout passait par là. Une mauvaise alimentation déréglait les intestins et c'était la cause de tous les maux. Et il prescrivait beaucoup, beaucoup de lavements intestinaux. Il a même mis au point un appareil qui permettait de pomper jusqu'à 15 litres d'eau par minute dans les intestins d'un patient. C'était du lavage à haute pression, comme on dit. Et, bon, vous l'avez mentionné au tout début, le docteur Kellogg ne faisait pas que rester à l'intérieur des quatre murs de son institut. Il a beaucoup travaillé à la promotion de l'eugénisme, donc cette idée qu'on pouvait améliorer une race, entre guillemets la race blanche dans ce cas-ci, en limitant qui pouvait avoir des enfants, qui ne pouvait en avoir. Il était, inutile de vous le dire, contre les mariages mixtes, pour la ségrégation raciale. Il a fondé et consacré une bonne partie de sa fortune à une organisation qui s'appelait le Race Betterment Foundation, donc la Fondation pour l'amélioration de la race qui, comme son nom l'indique, œuvrait dans ce qu'on appelait, c'est un terme que je n'avais jamais vu avant, l'hygiène raciale. C'est quand même assez formidable qu'on ait pu penser à des choses comme ça. Donc, Francine, personnage très, très complexe, qui avait énormément d'énergie, peut-être un peu trop.
En tout cas, il était parfois contradictoire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais disons que c'est pas mon ami premier.
Non, on l'inviterait pas à une fête. Hein?
Non. En terminant, je suis obligée de vous parler de ça. Le film Chevalier est sorti, je sais pas si vous avez vu Marcel, qui fait référence à Joseph Boulogne de Saint-Georges, dont vous nous avez parlé amplement.
Tout à fait. J'ai pas vu le film et je crains le pire. Je pense que je l'avais mentionné dans la chronique.
Vous avez peut-être pas tort parce que j'allais vous dire que heureusement que vous nous en avez parlé. Nous n'avons pas vu le film ici, mais nous avons lu la critique du Devoir et on comprend qu'ils en ont fait une espèce de Bridgerton et donc c'est principalement question de vie amoureuse.
Oui, bien, de toute façon, l'expression dans les films basés sur des faits vécus, souvent Hollywood a tendance à étirer le concept de basé sur des faits vécus à son extrême limite. Et finalement, il ne reste plus grand-chose des faits véritablement vécus à la toute fin. C'est un divertissement. Il faut prendre ça pour ce que c'est.
Voilà. Alors, à la semaine prochaine, Marcel. Merci.
À la semaine prochaine.
Alors, Francine, pour terminer cette demi-heure.
Oui, alors notre paractualité, debout malgré tout, ce week-end dernier, la presse a fait un reportage sur des histoires de disquaires. Et à l'intérieur de ce reportage, il y en a une qui portait sur Marc-Olivier Marchand. Marc-Olivier Marchand s'est longtemps cherché un emploi, en vain, dans toutes les entreprises où il déposait son curriculum vitae. Même chez les disquaires, même s'ils connaissaient la musique et tout, c'était toujours le même scénario. Il y avait de l'enthousiasme jusqu'à ce qu'il évoque son handicap. Il vit avec une hémiparalysie du côté droit qui l'empêche de passer de longues heures à la verticale.
D'accord.
Donc, ça l'empêche pas de se tenir debout, mais c'était un frein pour plusieurs personnes. Et il dit d'ailleurs, on vit dans une société où on aime dire qu'il n'existe plus de préjugés envers les personnes handicapées, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors lui, il s'est pris en main et il a créé la Table Tournante. C'est un magasin à Terrebonne.
Ah oui?
Où il vend des disques. Oui, voilà. Voilà.
Puis j'imagine qu'il est debout ou sur une chaise,
peut-être? En tout cas, il se débrouille avec lui-même et puis il réussit à faire quelque chose de très intéressant. Disque neuf et aussi il récupère des disques usagés en bon état.
À Terrebonne.
Oui.
Alors, on prend une petite pause. Au retour, on va parler d'intelligence artificielle.
On verra si on a le temps.
D'accord. Et on va parler aussi avec Vanessa Anne-Paré de Moi, les Pinières et Mobilité Québec. À tantôt.
Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Et on parle de technologie, Francine.
Oui.
Vous allez... Ça, c'est un de nos sujets de... On a quelques sujets sur lesquels on s'accroche. Et celui des applications pour la télé, ça en est un.
Oh, on va s'accrocher là-dessus?
Ben, vous trouvez que Tout.tv, entre autres, ne devrait pas être payant.
Oui, ça c'est un fait. Je répète et ad nauseam, mais je ne vous convainc point, malheureusement. Mais moi, je pense que c'est la télévision d'État et c'est la télévision d'État. D'autant plus que la mise en marché des émissions est, à mon avis, de plus en plus problématique parce que tout passe par... l'extra,
oui,
avant d'arriver et de le rendre finalement, de le libérer là, pour que tous puissent le voir. Oui. Moi, c'est toujours dans la question de l'accessibilité.
Mais donc, on paye pour notre impatience.
Peut-être pour l'impatience, c'est une façon, oui, de financer autrement, mais c'est ça, il faut penser au coût maintenant. Que représente l'ensemble du numérique, j'inclus là-dedans la télévision, le coût mensuel.
Oui.
Et il n'y a pas longtemps, et là je ne veux pas vous faire pleurer, mais il n'y a pas longtemps, pendant la pandémie, on a même fait de reportages de jeunes qui se trouvaient des trucs pour pouvoir continuer à suivre leurs cours. On a parlé entre autres des deux frères là, qui avaient trouvé un endroit qui était près d'une bibliothèque. Parce qu'il n'y avait pas les moyens
pas
de se payer l'Internet.
Oui, pas
alors
de Wi-Fi.
Ils allaient là et puis ils réussissaient à se brancher pour continuer leur formation.
C'est
alors
vrai.
Moi, c'est dans ce sens-là que je vous dis que moi, je conçois très bien de payer pour illico, mais j'ai beaucoup de difficultés pour Tout.tv, Extra.
Oui.
Il y a plusieurs applis qui nous permettent, il n'y a pas que ici, il y a TVA+, Tubi, Roku TV, Canopy, qui permettent de regarder des films et des séries sans payer un sou. Et moi, je vous conseille, parce que là, même si je vous en donnais toute la liste, c'est un petit peu difficile à noter, mais pour éviter qu'on se ramasse avec une facture très élevée, on peut très bien googler, justement, appli gratuite pour écouter la télé, et ça nous permet de voir certaines émissions sans payer de frais. C'est sûr que dans certains cas, si on veut vraiment ne pas prendre, je dirais ça comme ça, de câble, ne pas avoir de frais de câble pour réduire sa facture mensuelle, à ce moment-là, on a quand même des dépenses à faire au départ. Ça prend un boîtier qui est dédié à ça, comme un Chromecast, qui coûte quand même autour de 60-70 $. Ou encore, si on a une Apple TV, la facture, évidemment, on est rendu à plusieurs centaines de dollars, autour de 200 $. Mais ça permet, en tout cas, de regarder des émissions, soit sur notre téléphone, notre tablette, et sans être abonné sans avoir le câble et sans payer de frais extra.
Oui, ce qui est un peu insidieux, c'est tous ces services-là, tous ces applis-là payants, c'est pas cher, c'est comme 10 $ par mois, quelque chose de genre.
C'est là,
quand t'en as 3, 4, 5, c'est rendu à 50 $ par mois, mais toi, t'as l'impression que tu payes juste 10 $ par mois parce que tu le fais à chaque fois.
Exactement. On est surtout Point.tv Extra parce qu'on veut voir en primeur certaines très bonnes émissions. On est sur Illico qui, depuis quelque temps, fait des séries extraordinaires. Et on est sur Crave aussi parce qu'il y a des documentaires qui sont faits par des Québécois et qui valent vraiment la peine. Et vous avez tout à fait raison. Là, on vient de rajouter pas loin de 40 $ avec les taxes
facile.
À sa facture mensuelle. Alors moi, c'est dans ce sens-là que j'essaie de vous convaincre. c'est que moi, je dis, il pourrait avoir toujours un Tout.tv extra avec des documents qu'on dépose là. mais pas nécessairement les séries les plus populaires.
Mm-hmm.
Bon, c'est anti-marketing, mais à un moment donné, la télévision d'État, c'est la télévision d'État. Donc, avec les sites web, avec ces applis-là, ça peut nous permettre de voir des émissions grand public en même temps que tout le monde. Alors, c'est quand même pas inintéressant. Et bon, je veux pas faire campagne, là, mais je vous le dis, moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça parce que je pense que cette accessibilité-là, plus on va aller, plus elle va être menacée.
D'accord. Maintenant, vous avez trouvé une façon de travailler à l'ordi sans se fatiguer les yeux.
Bon, là, je vous rapporte une nouvelle qui est parue sur le site de françoischaron.com. C'est qui parle souvent de différents équipements. Moi, vous savez, j'aime beaucoup les médias sociaux, je m'intéresse beaucoup, je suis pas une experte, mais je suis quand même, je dirais, une lectrice et consommatrice avisée. Quand j'arrive dans l'équipement, là, moi, les équipementiers, je les suis pas à la trace. Mais cependant, on sait qu'il y a de plus en plus, et on le voit beaucoup chez les jeunes dans les écoles, des problèmes de vue qui commencent, de vision qui commencent très jeune, parce qu'on est obligé très jeune d'avoir des lunettes, des lentilles de correction à cause de ces écrans, de la lumière bleue hein, qui est très nocive. Donc, ça fatigue beaucoup les yeux. Et il y a un moniteur qui est, semble-t-il, intéressant avec sa solution pour les ordinateurs de bureau qui pourrait contribuer à réduire la fatigue oculaire. C'est le moniteur de BENQ. Alors, si vous n'avez qu'à googler ça, vous allez voir, c'est une compagnie d'équipement. Alors, vous allez retrouver différents produits qu'ils vendent. Mais ici, je parle du moniteur 1080p. Donc là, je vais arrêter dans les chiffres.
Vous êtes rendu d'une chronique consommation, là, vous, là?
Ben, c'est, oui, mais je pense que dans le domaine, oui, c'est peut-être un peu consommation, mais je n'ai pas de comparable. Alors, c'est ce que je vous dis, mais ça a été rapporté quand même par quelqu'un qui, généralement, est sérieux dans ce qu'il fait, mm-hmm. quoique parfois, il fait beaucoup d'humour sur son site. C'est le propre de tout le monde aujourd'hui de passer de nombreuses heures devant l'ordinateur et ça fatigue les yeux à la longue. Alors, c'est les moniteurs qu'on a souvent sont faits pas pensés pour le travail, mais pour le divertissement, qui est aussi important. Donc, il y a beaucoup trop de tout, hein, des couleurs vives, des couleurs nettes, de l'intensité. Alors, tout ça n'est pas nécessaire pour notre travail. Donc, avec ce moniteur-là, ce que je comprends, c'est que ça diminue un peu les effets que ça pourrait avoir. Oui. Et ça évite la surexposition. Ça améliore les zones sombres et ça apporte une visibilité plus claire. Alors, ce n'est pas à négliger. Comme je vous dis, je vous en parle. Et en plus, c'est ergonomique et c'est pensé pour des appels vidéo. Donc, si vous travaillez beaucoup
en team
ou des choses comme ça.
Est-ce que c'est facile à trouver?
Bien, comme je vous dis, là, BENQ, c'est un très gros équipementier. Alors, vous allez sur son site et vous allez trouver toute l'information pour vous en procurer ou encore pour en acheter quelque part.
Il nous reste une minute.
Une minute, alors...
On va parler d'intelligence artificielle.
Oui, bien brièvement, je voulais vous en parler parce que Le Devoir a rapporté récemment que l'intelligence artificielle pouvait venir au secours des étudiants à risque. Je ne sais pas si vos enfants, qui ont quand même autour de la trentaine maintenant, oui. ont travaillé avec Google à l'école, avec Moodle à l'école. Je crois que oui, parce que ça fait un bout de temps qu'on utilise Moodle pour faire toutes sortes d'affaires, hein, pour planifier, transmettre des documents, planifier des lectures, des travaux, envoyer des messages personnels, vérifier la participation aux activités. Alors, la belle affaire, c'est qu'avec Moodle aussi, on a ramassé, évidemment, des données. Et ça permet maintenant, en analysant toutes ces données, de faire des analyses prédictives pour signaler des retards significatifs dans les apprentissages. Donc, ça veut dire identifier de façon précoce les étudiants à risque de décrochage.
Ah.
Et si on est capable de le faire, bien, à ce moment-là, évidemment, on réduit l'abandon scolaire et qui sait, peut-être on augmente la réussite.
Bon, ben bravo!
On va rester à la canne. On est en bobette. Fume le cancan qui reste et m'y prévoir aucun bail. On mange des brioches à la canne. Brioches à la canne. On mange des brioches à la canne. Brioches à la canne. Mmh. Brioches à la canne. After burning camel, on reste à l'abri, dans le lit pas habillé. J'ai pas l'âge de Noé, baby, juste nous deux. Mélange un jus d'orange avec le mousse, gaillé sur la vie et tout est savour. Comme ce goûte, yeah. Pour les brioches, make me so wild. Yep, it's berry pour mon gros smile. Rappelle les dessins de ma grandma. Le bonheur en odeur pour maman. Yeah. On va rester à la canne. On est en bobette. Fume le cancan qui reste. Et nous prévoir au cabane. On mange des brioches à la canne. Brioches à la canne. On mange des brioches à la canne. Brioches à la canne. Une tasse de lait. Beaucoup de canettes, 3 tasses de farine, une pincée de sel. Il faut beaucoup d'amour dans la recette. Beaucoup de sucre et un peu de surette. Du sirop d'érable comme un camel à sucre. Beaucoup de crème comme dans un banana split. Mais oublie pas le barbara. J'ai le visu aiguisé, des bisous épicés. Pas besoin de s'habiller, juste besoin de s'abriller. Petit dégât de sucre dans la couverte. Mais c'est pas grave, non. Si c'est l'inverse, pas besoin de mettre une veste, on va rester à la caille. On est en bobette, fume le cancan qui reste, et mieux de prévoir aucun bail. On mange des brioches à la cannelle. Brioches à la cannelle. On mange des brioches à la cannelle.
C'était une chanson qui donne faim, c'est Fouki, Brioche à la cannelle.
Merci beaucoup, Jennifer. Et j'ai le plaisir, ça fait longtemps, mon Dieu, de parler avec Vanessa Anne Paris, qui est organisatrice communautaire, chef d'équipe intégration sociale à Moine-Épinière et Mobilité Québec. Ouh. Bonjour, Vanessa.
Bonjour, Yvan. Oui, ça fait longtemps. Comment vas-tu?
Très bien, merci. Et vous?
Ça va très bien. Le printemps est de retour, l'énergie, la montée de sève, c'est la vie est belle.
La vie est belle. Puis là, on va aller voir voir des voitures, des chars adaptés.
Oui, des chars, des machines. Le concept de véhicule est assez large. Parfois, on a vu jusqu'à des tracteurs, des véhicules récréatifs aussi.
Des tracteurs? Adaptés.
Oui, mais pas dans cette édition-ci, mais on m'a raconté que ça s'est déjà vu, un tracteur adapté, donc un agriculteur qui s'était retrouvé paraplégique pour pouvoir continuer à exercer son métier avait fait adapter un tracteur de ferme.
Ah, mon Dieu! J'ai déjà vu sur une vidéo Dominique Mercier qui tondait son gazon. Il avait organisé quelque chose avec son fauteuil roulant puis une tondeuse, mais un tracteur, là, c'est quelque chose, oui.
Dominique, on va lui apporter son tracteur à gazon.
Oui, c'est ça.
Il va être là d'ailleurs pour exposer son véhicule et son vélo.
Il est toujours partout.
Il est partout. Lui. Oui. On dirait connu comme Barabbas dans Passion.
Ah, il était là aussi.
Ma grand-mère.
Donc, le Salon du véhicule adapté, le 28 mai, à quel endroit?
Oui, ça va être au anciennement connu sous le nom de Centre montérégien de réadaptation, donc le Centre de réadaptation physique du 6 de la Montérégie-Ouest à Saint-Hubert. On va s'installer dans leur stationnement là, pour montrer toute la diversité des véhicules qui vont être présentés et des adaptations aussi.
S'il pleut, s'il fait pas beau, est-ce que vous avez un chapiteau, quelque chose?
J'allais dire un chapelet sur la corde
un
à linge.
Un chapelet ou des parapluies, je ne sais pas.
C'est-à-dire qu'il va y avoir les principaux fournisseurs vont apporter de tout chapiteaux, marquises. Il y aura aussi des membres de Mémo Québec qui vont exposer leurs véhicules. Mais en cas de pluie, d'orage, tout ça, ça évidemment, l'événement va avoir lieu beau temps, mauvais temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'abriter à l'intérieur du centre de réadaptation le temps que ça passe. Mais ça n'arrivera pas. Hein?
OK. Donc, on note que le 28 mai, il n'y aura pas d'intempéries.
Il n'y aura pas d'intempéries. Non, c'est déjà prévu.
C'est dans le calendrier maintenant. Vous parliez tantôt de sève et tout ça, donc ça nous amène aux cabanes à sucre. Il doit rester un petit peu de neige, j'imagine, autour des cabanes à sucre.
Ben, où ils en ont
où ils en ont gardé dans le congélateur, oui, c'est ça.
C'est ça, on a l'habitude à Mémo Québec, on est toujours à la fin de la saison des sucres parce qu'on s'assure le plus possible qu'il y ait du beau temps. Donc, vendredi prochain, 28 avril, ça se passe chez Lalande à Saint-Eustache et il reste encore des places, évidemment. Là, on peut être très, très nombreux pour un repas du temps des sucres juste avant de passer au mois de mai et au temps plus chaud.
Donc, j'imagine la cabane Lalande, je suis déjà allé une fois, ça doit être assez grand pour vous permettre de bien circuler facilement.
Oui, c'est assez grand, c'est évidemment accessible, comme on dit, à la grandeur du site, les toilettes le sont. Et on a d'ailleurs un de nos membres qui travaille là-bas, je crois, aux cuisines, donc il n'y a pas mieux là, que d'avoir une personne de l'équipe qui est à mobilité réduite là, pour sensibiliser à la réalité de nos besoins.
Bravo. Et on parle d'un webinaire sur les voyages, puis on a parlé de notre ami Dominique Mercier, je pense qu'il en fait partie.
Il en fait partie. Quand on disait qu'il était partout.
Il est partout, je veux dire.
Il est même en voyage, il est revenu.
Il est surtout en voyage, oui, oui, oui.
Donc, oui, le 17 mai, webinaire sur les voyages, c'est sûr qu'on aurait pu, bon, il y a Kéroul qui est très, très, très connu dans le milieu, il y a Isabelle Ducharme qui est chroniqueuse voyage, mais là, on y est allé plus avec des gens de l'interne, donc nos conseillers par bénévoles, Éric Gilbert et Dominique Mercier qui ont plus d'une anecdote à raconter, là, qui ont vécu toutes sortes de situations. Donc, un peu comment développer la débrouillardise en voyage, qu'est-ce qui est possible, comment s'assurer que tout est bien accessible une fois sur place, comment réparer un pneu crevé avec du duct tape aussi, ça c'est un fait vécu.
Ah et oui?
Oui, c'est vraiment ça fait partie des anecdotes.
Même les personnes qui ne sont pas en mobilité réduite auraient avantage à connaître
absolument,
ça.
Absolument, hein? Absolument. Toute personne intéressée ou ayant différents types de limitations fonctionnelles pourra aussi découvrir certaines ressources ou agences de voyage qui sont spécialisées dans le voyage adapté. Et ma collègue qui gère les inscriptions, Caroline, me disait qu'on était déjà rendu à plus d'une centaine d'inscriptions. C'est à voir si le beau temps nous fera concurrence cette journée-là et ces gens-là seront présents. On le souhaite.
Mais je sais que vous avez maintenant une influence sur la température, alors vous avez juste à mettre quelque chose pour le 17 mai.
La pluie cette journée-là, puis du beau temps le 28 pour le salon.
C'est ça. Mais un webinaire, il n'y a pas vraiment de limite non plus, alors vous pouvez prendre autant d'inscriptions que vous pouvez.
Effectivement, on peut être autant de gens jusqu'à ce la limite de notre plateforme qui est de plusieurs centaines. On ne s'est jamais rendu là, mais c'est ça, il y a possibilité. Et on prévoit aussi enregistrer la portion conférence, donc pour éventuellement la mettre en ligne sur notre chaîne YouTube.
Donc, je résume. Cabane à sucre, le 28 avril, température correcte. 17 mai, webinaire, température pas si bonne que ça. Et finalement, le 28 mai, le salon du véhicule adapté, très belle température pour
et
pouvoir.
Et voilà.
C'est ça. Un gros merci, Vanessa. On se reparle dans 6 semaines parce qu'on a de nouvelles organisations qui sont dans notre tour de table. Alors, on va se parler Un peu, avec un écart un peu plus grand, mais avec toujours autant de plaisir.
Toujours autant de plaisir, mais c'est une super bonne nouvelle, ça. Plus il y aura d'organismes, plus on fera connaître toutes les belles choses qui se font dans le milieu.
Bravo. Alors, au plaisir de se parler.
Au plaisir, Yvan. À bientôt. À dans 6 semaines. Au revoir.
Francine, dernier droit de cette émission, et vous nous mettez toujours l'eau à la bouche par des choix d'activités que, en tout cas moi, qui me surprennent et qui m'intéressent.
Cette semaine, je me suis concentrée sur une seule activité parce qu'elle est
Elle est quelque chose.
Elle est quelque chose, et je vous dirais que d'année en année, elle prend de plus en plus d'ampleur. Je parle ici de plural. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, plural. Avant, c'était la foire papier.
D'accord, non.
La foire papier en art contemporain. Et on a changé de nom parce que depuis quelques années, il y avait toujours du papier. Mais il y avait, disons, des formes comme en métal et dans d'autres produits qui n'avaient rien à voir avec le papier. Alors, on a essayé de trouver un nom là, qui était plus inclusif par rapport à tout ce qui est montré là. Et Dieu sait qu'il y en a des affaires. Il y a une cinquantaine d'exposants et de galeries. Et en plus, il y a d'autres événements. C'est vraiment un événement majeur en art contemporain. Et j'avais hâte cette année de voir, parce que moi, ça fait plusieurs années que j'assiste à ça. Au début, c'était dans une petite roulotte là, sur ce qui est devenu la place Henri Tranquille. Alors, Alors, il y a une grande évolution. C'est sur 2 étages et c'est au Grand Quai dans le Vieux-Port. C'est sur 2 étages, je rassure tout de suite nos auditeurs, très facile d'accès. L'ascenseur, c'est possible de se déplacer. Et je trouve qu'il y a plus d'espace. Donc, un peu plus d'espace entre les kiosques. On aurait pu reprocher avant que ce n'était pas facile de se mouvoir, par exemple, en fauteuil entre les kiosques. Mais je pense, parce que je ne suis pas handicapée moi-même.
Vous ne l'avez pas essayé. Oui.
Mais je pense que ça sera mieux. Évidemment, tout dépendant du nombre de visiteurs à cet événement-là. J'avais hâte de voir ça aussi parce que cette année, on a beaucoup parlé du fait que sur le plan économique, il y avait des difficultés, comme on sait, en bourse et tout ça. Et par contre, on disait, dans le secteur de l'art, il n'y a pas eu de crise pendant la pandémie. Il n'y a pas eu de crise financière, ni avant ni après. Au contraire. Et ça se reflète, je vous dirais, dans cette exposition de plural. Parce que il y a beaucoup de produits, et il y a beaucoup de produits plus chers aussi qu'il y avait avant. Est-ce que ça nous empêche d'y aller?
Pas non. Du tout.
Est-ce que on va acheter? Ben, ça dépendra toujours de ses moyens, comme on dit. Mais il y a encore des choses qui sont à un peu moins de 4 chiffres. Donc, c'est quand même possible de se procurer certaines œuvres. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que là, on peut poser des questions. Ceux qui sont là sont prêts, sont ouverts à vous répondre, à discuter avec vous, à vous expliquer ce qu'ils font ou encore à vous parler des artistes qu'ils représentent. C'est un très, très beau contact avec l'art contemporain. Et en plus de ça, je vous dirais que on met en évidence des jeunes qui œuvrent dans cette sphère de l'art contemporain.
Là, on parle de peinture, sculpture...
De tout ça. Tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a même des montages qui sont très impressionnants quand vous arrivez au deuxième, parce qu'il faut entrer par le deuxième. Vous allez voir qu'il y a un montage qui est assez impressionnant. Donc, ça se déroule à partir de vendredi midi, de midi aujourd'hui jusqu'à 21h.
Très bientôt. Là.
Très bientôt, samedi de 11h à 19h et dimanche de 11h à 18h. Le prix d'entrée varie entre 15 et 20 $. C'est toujours la même chose. Maintenant, je donne ça comme ça parce qu'il y a trop de distinctions, étudiants, personnes âgées. Et vous pouvez aussi avoir un laissez-passer pour 3 jours au prix de 45 $. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur de l'art contemporain dans le monde, en 2009, nous disait un article du Devoir hier, on a vendu, en fait, en 2009, on a vendu pour 38 milliards de dollars. Non, c'est pas vrai.
Non, sûrement pas.
Non. On a vendu l'an dernier 91 milliards de dollars. Le marché de l'art. Et en 2009, il était de moins de 38 milliards par rapport à ce 91 milliards. C'est beaucoup.
C'est toute une évolution.
Oui, c'est toute une évolution. Quand on dit que c'est important, là. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si c'est clair, là, mais il y a une hausse de 38 milliards, je vais dire ça en bon français, là, depuis 2009 par rapport à 2021.
D'accord. De mon côté, j'en ai parlé en entrée d'émission. Je vais être bénévole à l'accueil lundi, mardi et mercredi prochain au défi sportif Altergo. Le défi commence aujourd'hui. C'est la 40e édition du défi sportif qui donne son coup d'envoi ce matin, aujourd'hui, au Parc Jarry, avec un mini-marathon destiné aux élèves du primaire et du secondaire, ainsi qu'une compétition nationale de boccia à l'aréna Maurice Richard. La programmation des 2 prochaines semaines promet d'être riche en couleurs. Plus de 7000 athlètes de l'élite et de la relève, de toutes limitations fonctionnelles, se donnent rendez-vous chaque jour pour repousser leurs limites. On dirait qu'on a pris notre titre de chronique en lisant ça.
Bien, ces gens vous inspirent.
Tout à fait. Ah oui, vraiment. Les organisateurs du défi invitent le public à venir les encourager lors des nombreuses compétitions sportives gratuites qui ont lieu aux 4 coins de Montréal. Au programme de cette 40e édition, des milliers de sportifs passionnés et des compétitions incroyables dans une dizaine de disciplines, mais c'est pas tout. Il y a le défi accueille des athlètes de 15 pays différents, ainsi que des porte-paroles de renom, de la sénatrice et ancienne athlète paralympique Chantal Petitclerc à l'animateur Jean-Marie Lapointe, en plus de Hugo Girard, l'homme fort, Nancy Audet et Mickaël Guerrier. De nombreuses surprises sont également à prévoir, comme la participation d'athlètes ambassadeurs inspirants. Le public est également invité à découvrir une exposition gratuite et inédite présentée au complexe sportif Claude Robillard, retraçant l'historique du défi sportif Altergo et mettant en lumière les athlètes exceptionnels qui s'y sont succédés. Et il y a aussi, on parlait du Vieux-Montréal tantôt pour votre exposition, le Cirque du Soleil a commencé hier son nouveau spectacle. Le spectacle Écho. Alors, il y a beaucoup d'actions du côté du Cirque du Soleil.
Alors, merci à tous. C'est ainsi que ça se termine aujourd'hui. Chers auditeurs, on va vous retrouver la semaine prochaine. Merci à notre équipe en régie.
Oui,
on a eu une équipe aujourd'hui extraordinaire.
Jennifer.
Je ne sais pas si vous avez senti la différence.
Oui, avec sa voix de soleil et Mathieu Tessier. On se donne un rendez-vous vendredi 9h30 au Canal M. Merci, Francine.
Vous pouvez rejoindre les...